Bienvenue sur l'Extrait Sonore d'Explore, le festival genevois de la ville de demain. Dans un entretien réalisé à Même la rue, nous avons rencontré Clément Rivière, chercheur à l'Université de Lille, pour discuter de la place de l'enfant dans la ville. La présence d'enfants seuls dans nos rues est devenue suffisamment rare pour susciter la curiosité, l'interrogation, voire la réprobation. L'enfant a progressivement désinvesti l'espace urbain pour devenir un enfant d'intérieur. Mais est-ce vraiment la ville que nous voulons ? Clément Rivière a publié un ouvrage sur les dynamiques de socialisation des enfants dans l'espace public. Il questionne la place qui est faite aux enfants dans la ville, tant par les urbanistes que par les parents eux-mêmes.
On va peut-être commencer par définir ce que sont ces espaces urbains.
Alors, d'abord, je voudrais dire que je suis très content d'être ici à Genève dans le cadre de ce festival qui a l'air vraiment, vraiment passionnant. Ce qui m'intéresse, moi, dans le cadre de l'enquête que j'ai conduite, c'est une caractéristique des espaces publics qui est leur accessibilité. En fait, on définit un espace comme étant public dans la mesure où il est accessible. Alors évidemment, il faut penser ces espaces le long d'un gradient, du plus accessible au moins accessible. Et c'est important pour le sociologue que je suis et puis pour tous les utilisateurs de la ville parce que cette accessibilité a comme conséquence une forte diversité des gens qu'on va pouvoir rencontrer dans ces espaces. Et donc moi, dans mon livre, je m'intéresse à des pratiques ordinaires, à des pratiques que les parents mettent en œuvre au quotidien, en lien avec cette diversité potentielle des personnes qu'on peut rencontrer dans les espaces publics. Et donc que par définition on ne maîtrise pas, on ne peut pas savoir qui va se trouver dans un espace public, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est les espaces qui sont intéressants, à la fois parce qu'on peut y faire des rencontres, on peut y faire des découvertes, des apprentissages, et en même temps c'est des espaces qui exposent à potentiellement différentes menaces.
Vous parlez de serendipity à ce propos. On peut peut-être expliquer le concept. L'idée c'est qu'on est confronté dans l'espace urbain à des rencontres, certaines prévues, d'autres non prévues, et c'est les non prévues qui font peur aux parents, finalement.
Voilà, alors, donc encore une fois, la ville, en tout cas c'est une manière de l'aborder, se caractérise par le fait qu'il y a beaucoup de gens dans un même endroit, et donc on ne connaît pas tous les gens qui composent cette unité de vie. Une sociologue américaine dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Lynn Loughlin, la qualifie de monde d'étranger. Et donc effectivement, c'est à la fois un espace d'opportunité, un espace de rencontre et un espace d'exposition aux autres, d'exposition à différentes formes de menaces. Et donc la sérendipité, donc en français, certains l'emploient, mais c'est plus commun de l'utiliser en anglais. Oui. Pour un anthropologue suédois qui s'appelle Ulf Anert, c'est l'essence de l'urbain. C'est-à-dire que l'urbain, c'est par définition un espace de vie dans lequel on peut trouver des choses qu'on ne pensait pas trouver, qu'on ne cherchait pas spécialement. Et donc ces choses peuvent être tout autant positives que négatives. Et donc moi, dans mon livre, c'est pas le seul objet du livre, mais c'est quand même au cœur de ce travail. Je m'intéresse aux menaces, aux risques que perçoivent effectivement les parents au moment où leurs enfants se déplacent dans la ville sans eux.
Vous dites au début de votre livre que, étonnamment, ça a très peu intéressé les sociologues, cette question-là, alors que je la trouve phénoménalement intéressante.
Alors c'est un grand sujet. Disons que de manière générale, l'enfance a fait l'objet d'une forme de redécouverte par les chercheurs en sciences sociales, d'abord peut-être par les anthropologues et plus récemment par les sociologues depuis peut-être une vingtaine d'années. Et donc il y a des travaux maintenant qui se développent, mais c'est vrai que sur les enfants dans la ville. C'est peut-être dans un premier temps les géographes qui se sont intéressés à cette question, plus récemment les sociologues, et avec assez peu de travaux qui interrogent que ce soit le point de vue des enfants, je parle ici pour la sociologie, et le point de vue des parents. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant, c'est ce que je dis dans mon livre, dans une époque qui se caractérise quand même par un assez fort contrôle de la présence des enfants dans les espaces publics, par beaucoup de normes en fait qui vont encadrer cette présence des enfants dans les espaces publics, qui a eu relativement peu de travaux sur cette question jusqu'ici.
Alors vous avez enquêté auprès de parents à Paris et à Milan. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de comportements ou d'actes qui sont similaires. Il y a par contre des différences entre les parents français et italiens.
Oui, donc j'ai fait une enquête par entretien dans un quartier de Paris et un quartier de Milan en Italie.
Non, c'est important de dire que vous avez choisi des quartiers qui se ressemblent vraiment, y compris du point de vue urbanistique et géographique.
Voilà, donc c'est impossible évidemment de trouver deux quartiers qui soient similaires dans deux villes distinctes. Mais l'idée, c'était d'essayer de travailler, d'enquêter dans deux quartiers qui présentent un certain nombre de caractéristiques communes. Donc à Paris et à Milan, c'était lié à des questions de financement de mon travail de recherche. Mais l'idée, donc, c'était à la fois de faire varier certaines choses en travaillant dans deux contextes métropolitains différents, avec des histoires un peu différentes, et puis surtout des systèmes de protection sociale différentes, un certain nombre de caractéristiques différentes, mais en même temps, au sein de ces deux contextes métropolitains différents, de trouver des espaces qui se ressemblent par un certain nombre d'aspects, et notamment du point de vue de leur histoire urbaine. En fait, c'est une des trajectoires de développement qui sont assez similaires. Paris et Milan, en fait, pour le dire rapidement, ont deux histoires urbaines très proches, avec un développement par cercle concentrique, et puis des populations qui sont hétérogènes. Alors c'est pas tout à fait la même chose dans les deux terrains, mais ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur des quartiers dans lesquels les parents, en lien avec ce que je disais juste avant sur l'accessibilité et la diversité des populations qu'on est censé trouver dans les espaces publics, donc des terrains dans lesquels les parents au quotidien pouvaient, et leurs enfants, rencontrer des gens différents d'eux, à la fois du point de vue de l'origine nationale, de la religion et du milieu social, dans le cadre de leur pratique ordinaire du quartier.
Alors, en abordant votre livre, je me suis dit, les parents jouent évidemment un rôle extrêmement important dans ce processus de socialisation de leurs enfants aux espaces publics, mais c'est un ensemble d'agents qui interviennent, comme le démontre très bien votre enquête.
Oui, alors, donc moi, j'ai une entrée particulière dans mon livre, d'ailleurs d'où son titre, « Leurs enfants dans la ville ». Je m'intéresse aux pratiques que mettent en œuvre les parents, mais évidemment, ce n'est pas les seuls acteurs à intervenir. Il suffit de se replacer à l'époque de sa propre enfance pour se souvenir du rôle que pouvaient jouer les copains, les camarades, les amis, donc ce qu'on appelle les pères, pour le dire de manière un peu générale. Il y a aussi un rôle important de l'institution scolaire, qui de différentes manières structure la découverte structure la prise d'autonomie des enfants dans la ville. Et en fait, je ne développe pas outre mesure, mais c'est intéressant de voir que davantage que l'âge biologique d'un enfant, c'est la classe dans laquelle il est, le niveau scolaire dans lequel il est inscrit, qui va structurer les autorisations et les interdits parentaux. Et ça, c'est des choses qui avaient déjà été montrées par beaucoup d'autres travaux, notamment le passage dans l'enseignement secondaire. Je ne sais pas bien comment ça fonctionne en Suisse, mais c'est vraiment un moment d'autonomisation très important.
Alors en France, souvent, quand on va dans le secondaire, il y a un trajet plus long à faire. C'est un peu moins le cas en Suisse, mais quand même.
Alors au-delà de la question du trajet, en tout cas ce qu'on observe en France, mais aussi dans d'autres pays, c'est que c'est aussi un moment d'autonomisation vis-à-vis des pratiques culturelles, musicales, vestimentaires, la question du téléphone aussi. Il y a vraiment un avant et un après l'entrée au collège. Et c'est des choses qu'on observe aussi à Milan.
Vous dites également que l'exposition aux messages médiatiques et aux faits divers joue un rôle important. Si on se met dans la peau des parents, on le comprend. Ce rôle, il est exagéré parfois ou il pèse fort ?
Alors, c'est difficile de dire pour moi s'il est exagéré ou pas, mais ce qui est certain, c'est que dans le cadre de l'approche qui était la mienne, qui consistait à interroger les représentations des parents, moi, je m'intéressais à leur expérience de parents dans la ville. C'est vraiment une dimension très saillante de leur expérience, c'est-à-dire que dans quasiment tous les entretiens que j'ai réalisés, les parents... Alors, ça peut être aussi bien des parents qui sont sincèrement inquiets, préoccupés, qui pensent que le danger est réel pour leurs enfants, que des parents beaucoup plus critiques, qui vont mettre à distance ces messages médiatiques et ces faits divers, mais dans tous les cas, qu'on croit beaucoup ou peu à la réalité de la menace, c'est quand même quelque chose qui fait partie de l'expérience ordinaire des parents, qui d'une certaine manière constitue une petite musique en fait, qui accompagne la parentalité et qui va conduire effectivement des parents à ne pas faire des choses qui pourtant leur paraissent raisonnables ou possibles. Et donc ça, c'est une des choses que j'aborde dans mon livre, ça a trait à ce qu'on appelle des normes en sociologie, des normes de parentalité, des normes de bonne parentalité. Et donc pour le dire rapidement, un bon parent aujourd'hui, c'est un parent qui ne laisse pas son enfant seul dans la ville, seul dans les espaces publics. Et il y a un lien, alors c'est pas la seule dimension, mais il y a un lien avec cette très forte visibilité des faits divers, impliquant les enfants. Donc je ne sais pas quelle est la situation en Suisse, mais en France, très régulièrement, voire quasiment en permanence, on a de manière très visible dans les journaux télévisés, oui, des faits divers impliquant des enfants qui reviennent et qui structurent beaucoup l'imaginaire.
Alors en Suisse, il faut peut-être faire une toute petite différence entre peut-être le canton de Vaud et le canton de Genève, qui sont très gallocentristes et qui effectivement sont très sensibles aux faits divers, y compris ceux qui se passent en France. C'est peut-être un peu moins le cas quand on va en direction de la Suisse alémanique. Ce qui est intéressant, c'est que vous montrez que la découverte de la ville par les enfants se fait de manière graduelle, du domicile vers les espaces publics, mais en passant par des espaces que les parents ont perçus comme étant des espaces protégés.
Oui, alors moi, une des choses auxquelles je ne m'attendais pas avant de commencer cette enquête, c'est que, comme vous l'avez dit, en fait, le domicile, c'est un espace important de la prise d'autonomie urbaine des enfants. Alors ça peut paraître
étonnant, hein,
paradoxal, mais dans la plupart des cas, les enfants sont d'abord laissés seuls chez eux avant d'être laissés seuls dans la rue. C'est une étape, en fait, un peu qui précède, on va dire, l'autonomie dans les espaces publics. Alors c'est d'autant plus intéressant qu'on sait que le domicile, c'est un espace dangereux pour les enfants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faits divers, enfin beaucoup d'accidents, parfois très graves, qui se déroulent au domicile. Mais ce lieu n'en demeure pas moins, du point de vue des parents, sécurisé, pour deux raisons. D'une part parce que il n'y a pas de possibilité d'un accident de la circulation, et d'autre part parce que il n'y a pas de possibilité a priori que l'enfant entre en contact avec une personne inconnue. Et c'est ça les deux grands risques qui structurent les représentations des parents, le risque d'accident de la circulation d'une part, et d'autre part le risque de rencontre d'un inconnu malveillant. Et donc en lien avec ces deux grands risques, je décris dans le livre toute une gradation d'espaces qui sont perçus par les parents comme étant plus ou moins protégés justement de ces deux risques. Alors d'abord parce que la circulation automobile ou motorisée est très fortement régulée ou interdite. Et ensuite, parce que des formes de régulation, des interactions, et notamment des interactions entre adultes et enfants, vont s'exercer dans des petits squares, dans un certain nombre d'espaces qui sont identifiés par les parents comme étant sécurisés, du moins à certains moments de la journée, de la semaine et de l'année.
On disait tout à l'heure que les parents n'étaient pas les seuls à intervenir, hein, dans cette appropriation d'espace public. Vous utilisez un terme que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle la co-veillance. Qu'est-ce que la co-veillance ?
Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je reprends cette idée. Pour le dire simplement, l'idée que dans un endroit déterminé, des personnes vont veiller les unes sur les autres de manière informelle. Alors moi, c'est ça qui m'intéressait beaucoup, c'est que ça n'est pas forcément formalisé, ça n'est même pas forcément toujours conscient. Mais il y a l'idée que des acteurs contribuent à produire du contrôle social, pour le dire peut-être de manière un peu directe, et notamment, moi, un des résultats de la recherche auquel je ne m'attendais pas, c'est la centralité du rôle des commerçants dans la perception qu'ont les parents de ce qu'est une ville sécurisée. Notamment une maman dont je cite la formule que j'ai trouvée très efficace dans le livre, qui dit qu'en fait, apprendre à son enfant à entrer dans un commerce en cas de problème, c'est le béaba de la sécurité à Paris. Parce que dans un commerce, on va pouvoir demander son chemin, on va pouvoir demander à appeler ses parents, on va pouvoir juste demander à être aidé, quelle que soit la...
Et puis les gens sont identifiés dans un commerce.
Ils sont identifiés, on a l'idée, voilà, qu'ils ne vont pas bouger. Et donc là, je trouve que c'est intéressant peut-être pour les décideurs publics, puisque ça nous aide aussi à penser le fait qu'une ville qui a moins de commerce, c'est une ville qui est peut-être moins sécurisée et sécurisante. C'est des questions qui se posent beaucoup en France aujourd'hui.
Vous distinguez trois types d'encadrement parental, le protecteur, le préparateur et le stratège. Peut-être en quelques mots nous dire en quoi ils sont différents et comment ils se succèdent peut-être.
Alors donc, moi je suis sociologue, je suis attentif à la question des différences sociales, et donc j'ai voulu, dans un des chapitres de mon livre, essayer d'interroger la façon dont les ressources dont disposent les familles, à la fois du point de vue économique, du point de vue culturel, mais aussi par exemple des ressources en termes de logement, vont contribuer à différencier les pratiques parentales et par ricochet à différencier les expériences des enfants. Et donc dans le livre, je construis une typologie de ce que j'appelle des manières d'encadrer les usages que les enfants font des espaces publics. Et donc effectivement, je propose une typologie qui présente trois types. Alors c'est toujours simplificateur, hein, c'est toujours une simplification du réel, mais en même temps ça aide à mieux le comprendre. Et donc ces trois types renvoie à des profils différents de parents qui ont des pratiques différentes d'encadrement. Donc dans le premier cas, l'encadrement protecteur, il s'agit de parents qui sont plutôt des parents de milieu populaire, qui vont avoir tendance à laisser pas mal de liberté à l'enfant dans un périmètre assez restreint autour du domicile, qui vont en lien avec une confiance assez forte dans le voisinage.
C'est particulièrement le cas en Italie d'ailleurs.
Oui, c'est là. Ouais. Sur les deux terrains, mais c'est vrai en Italie. Avec aussi, donc finalement, un usage assez intense du quartier, assez peu d'occasions de sortie du quartier et assez peu de projections dans le futur. C'est-à-dire que l'enfant voilà, doit profiter de son enfance et on n'est pas nécessairement en train de se projeter dans la suite de son parcours. Alors que dans le cadre du second type que je décris, l'encadrement préparateur, il s'agit là à l'inverse plutôt d'agir dans le présent pour préparer le futur de l'enfant. Donc c'est très lié évidemment à la question de la scolarité, mais pas uniquement, c'est aussi lié à la question du développement de ses compétences de mobilité, notamment la prise des transports en commun. Et donc en fait, c'est des parents que j'ai qualifiés de développeurs dans le sens où ils sont très préoccupés par ce que va devenir l'enfant, ils sont pas vraiment dans le présent, mais dans ce que l'enfant va devenir. Ce qui a pour conséquence un contrôle assez fort, voire très fort, de ces usages des espaces publics au quotidien. Finalement, un usage assez résiduel des espaces publics, puisque c'est toujours pour aller quelque part, pour faire quelque chose. Il y a assez peu de jeux libres dans l'expérience des enfants de ce type de parents. Et là, c'est plutôt des parents caractérisé par un fort capital économique et qui se projette dans des parcours de réussite sociale très forts pour l'enfant. Et le troisième type, qui là effectivement est plus présent sur le terrain parisien, que j'ai appelé l'encadrement stratège, là c'est des parents qui vont essayer de combiner à la fois l'idéal de préparation de l'enfant, mais en même temps en essayant d'avoir aussi les bénéfices de la proximité. Donc d'avoir des enfants qui puissent s'inscrire dans le quartier, avoir des relations sociales intenses dans leur quartier, et en même temps des pratiques de préparation à la mobilité et aussi une attention très forte pour le parcours scolaire des enfants.
Alors on voit que le niveau social des parents joue un rôle important. Il y a une chose qui les rassemble peut-être, ça m'a beaucoup étonné en vous lisant, c'est qu'il y a une espèce de nostalgie chez les parents qui trouvent que d'abord que le métier de parent est de plus en plus difficile, mais j'ai l'impression qu'il y a un sous-titre qui veut dire « dans notre enfance, c'était plus simple, on était plus libre ». Il y a une sorte de nostalgie un peu comme ça.
Alors là... Je pense que c'est à la fois un résultat de recherche vraiment intéressant, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup de parents ont le sentiment qu'en fait, c'était plus facile d'être parent à l'époque de leur propre enfance. Alors, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Je serais totalement incapable de vous dire dans quelle mesure c'est vrai. Oui. Par contre, c'est un sentiment partagé. Et donc, à la fois que, d'une part, alors c'est deux choses différentes, il était plus facile d'être un parent, mais pour tout un ensemble de raisons, mais aussi que la ville était moins hostile aux enfants à l'époque, avec notamment, et ça je pense que c'est quelque chose de vraiment important et qui a été montré par pas mal d'autres recherches, l'idée que finalement le jeu aurait quasiment disparu, en tout cas le jeu libre aurait quasiment disparu des villes. Et ça suscite beaucoup de nostalgie. Alors après, il y a quand même beaucoup de réserves, encore une fois, à avoir, hein, et c'est la nostalgie, quand on pense à son enfance, on est facilement nostalgique. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, indépendamment du milieu social, et puis dans les deux villes, alors peut-être plus encore à Milan qu'à Paris, cette idée que la ville était plus agréable pour les enfants à l'époque, il y a quelques décennies, qu'aujourd'hui. Alors pour tout un ensemble de raisons que j'essaye de décrire dans le livre, mais notamment... Enfin, je ne sais pas si ça fait partie de vos questions.
Non, mais allez-y.
Notamment, en fait, une présence une empreinte moins grande de l'automobile sur la ville. Moins d'inquiétude, sans doute, pour ce qui peut arriver aux enfants avec cette figure très centrale du pédophile et du risque d'enlèvement. Et ça, c'est des choses qu'ont montré d'autres travaux. C'est-à-dire que c'est des figures qui deviennent centrales dans les médias, dans les années 90 en Europe, autour de l'affaire du trou, notamment en Belgique. Donc ça ne veut pas dire que les parents pensent que la pédophilie n'existait pas, que les pédophiles n'existaient pas. D'ailleurs, j'ai plein de récits de mères de famille, notamment à Milan, qui m'évoquent des expériences de rencontres d'exhibitionnistes, etc. mais ça n'était pas quelque chose de visible dans le débat public. Et en fait, on n'y pensait pas nécessairement. Et puis, en fait, plus largement, et ça, c'est des choses que montrent aussi beaucoup d'autres travaux de sociologues, la conception de l'enfance était différente, en fait. Les enfants n'étaient pas perçus autant qu'aujourd'hui comme étant des êtres fragiles, vulnérables à protéger. Et il suffit, alors c'est pas des choses dont je traite dans le livre, mais il suffit de penser à tout l'équipement qu'on achète pour les enfants qui font du vélo ou du ski, par exemple, pour voir que les choses ont sensiblement évolué en 2-3 décennies, ou encore la question de la ceinture de sécurité en voiture, par exemple.
Y a un point commun aux trois types d'encadrement dont on parlait tout à l'heure, c'est que dans les trois cas, on essaye de maîtriser l'incertitude. Et il y a une espèce d'impossibilité dans ces deux mots, maîtriser l'incertitude.
Oui, c'est un paradoxe qui est évidemment insurmontable et que les parents essayent au quotidien d'affronter. Mais je pense, pour revenir à la question précédente, que ce qui caractérise la parentalité contemporaine, c'est qu'elle est beaucoup plus normée. En fait, il y a beaucoup plus d'attentes qui pèsent sur les épaules des parents de différentes manières, avec davantage de compétition scolaire, davantage d'incertitude sur la réussite sociale des enfants. Alors, j'aborde pas ça dans mon livre, mais évidemment la question climatique, hein, qui est un peu en toile de fond aussi. Et donc oui, les parents font comme ils peuvent, et une des choses qui m'intéressait dans le livre, c'était d'essayer de voir comment ils s'appuient aussi sur le regard des autres parents, sur les pratiques des autres parents, pour eux-mêmes prendre des décisions au quotidien. Parce qu'en fait, ce qui revient beaucoup, c'est que les parents ne savent pas ce qu'il faut faire, en fait. Et d'ailleurs, ils ne sont pas toujours d'accord entre eux, en fait, entre parents. Et donc, une des raisons pour lesquelles il y a des différences sociales, c'est que les parents s'appuient beaucoup sur les pratiques des autres parents, mais en fait, les autres parents qu'on fréquente sont souvent des parents assez proches socialement. Et par ailleurs, les enfants ont tendance, et ça c'est assez terrible, à avoir des amis assez proches d'eux socialement.
Il y a une notion que je trouve extrêmement importante dans votre livre, c'est que l'encadrement parental n'est pas le même pour une fille que pour un garçon. Et on se rend compte à quel point, notamment la volonté de maîtriser les incertitudes est encore plus forte quand il s'agit d'une fille, pour toutes sortes de raisons, et ça varie selon les âges, c'est particulièrement fort au moment de la puberté. Mais ça a des conséquences normatives pour la suite aussi.
Alors, je parlais tout à l'heure de la visibilité du risque pédophile. Ce qui est intéressant, c'est que Donc moi, j'ai rencontré des parents qui avaient au moins un enfant âgé de 8 à 14 ans. C'est important de le dire. Mais évidemment, quand les enfants ont 8 à 14 ans, ils ont été plus jeunes avant. Et pour les premières années, en fait, ce risque de la mauvaise rencontre, ce risque pédophile, il est tout à fait indifférencié pour les filles et les garçons. Et voire, à la limite, c'est presque plus les garçons qui sont perçus comme étant plus vulnérables dans la mesure où ils sont considérés, alors à tort ou à raison, là encore, mais en tout cas c'est une perception très partagée par les parents, comme étant plus tête en l'air, ils prennent plus de risques, ils sont moins obéissants, et pour le dire en fait comme les parents, ils sont perçus comme étant moins matures que les filles au même âge. Et ce que je trouve vraiment fascinant, c'est que donc dans les premières années de la phase d'âge que j'étudie, en gros de 8 à 10, 11 ans, c'est plutôt les filles qui sont perçues comme étant mieux capables que les garçons au même âge de se déplacer dans la ville, pour le dire rapidement, parce qu'en fait, elles respectent davantage les consignes, elles prennent moins de risques, elles sont moins imprévisibles d'une certaine manière, on parlait de ça juste avant. Mais de manière assez soudaine, avec la puberté, avec les transformations corporelles, avec l'apparition des règles aussi, pour le dire clairement, le regard que portent les parents sur leurs filles évolue de manière assez radicale, et notamment la perception qu'ils ont de la place qu'aura leur fille dans les espaces publics quand elle sera sans eux, avec l'idée qu'elles vont nécessairement être confrontées à tout un ensemble de situations qui inquiètent, alors plus ou moins désagréables et plus ou moins dramatiques, mais c'est tout un gradient là encore qui va du regard au compliment jusqu'à l'agression sexuelle. En fait, c'est tout un ensemble de situations perçues comme plus ou moins inquiétantes et dangereuses.
Et ça s'est renforcé encore ces quelques dernières années.
Alors ça, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que cette question du harcèlement a gagné beaucoup en visibilité, ce que je pense être une bonne chose. Et on peut imaginer que l'enquête que j'ai réalisée, qui maintenant commence à dater un peu, puisque c'était au début des années 2010, si on l'a réalisée aujourd'hui, il y aurait peut-être des choses nouvelles, puisque c'est maintenant des questions qui sont plus centrales, plus discutées, en tout cas à Paris, en France, de manière très nette. Ce que je voulais dire, c'était que même les parents qui sont les plus désireux de donner à leurs enfants une éducation non genrée donc, d'éduquer leurs garçons et leurs filles de la même façon, de leur transmettre les mêmes chances, en fait, d'une certaine manière, malgré eux, vont quand même mettre en œuvre des pratiques d'encadrement différenciées pour les garçons et pour les filles, qui vont avoir trait au contrôle de l'habillement, qui vont avoir trait au contrôle des horaires de sortie, et surtout, ce qui me paraît le plus important, c'est le discours qui est transmis aux garçons et aux filles sur la ville, qui n'est pas la même, puisqu'en fait, c'est largement inconscient, hein, mais il y a l'idée que, à mesure qu'ils grandissent, les garçons, d'une part, vont être mieux capables de se défendre que les filles, et surtout vont moins susciter d'intérêt, alors que les filles, au contraire, en grandissant, vont susciter de plus en plus d'intérêt, et potentiellement être confrontées à de plus en plus de situations auxquelles il faut les préparer. Et donc ça dit quelque chose de fondamental, je pense, sur les espaces publics contemporains, c'est que c'est des espaces qui sont très hétéronormés, en fait, qui sont, en tout cas du point de vue des parents que j'ai rencontrés, caractérisés par le fait que les femmes et les hommes n'y seront pas exposés au même type d'interaction.
Alors, on voit bien que être une fille ou un garçon, un homme ou une femme, c'est pas pareil. La provenance sociale est pas pareille non plus. Vous dites que le milieu social influe sur le processus de socialisation, et notamment l'étendue des réseaux de socialisation joue un rôle important.
Alors, juste avant de répondre à votre réponse, je complète ma réponse précédente, parce que ce que j'essaye de montrer, en tout cas dans mon livre, c'est que les parents jouent un rôle dans ce processus de reproduction d'inégalités genré d'accès aux espaces publics, et qu'il me semble que c'est important j'espère qu'en tout cas mon livre, à sa modeste mesure, pourra apporter quelques éléments de réflexion. C'est un combat si on souhaite l'égalité, après il faut la souhaiter, hein. c'est vraiment politique comme question, mais si on la souhaite, les parents ont aussi un rôle au quotidien dans les discours qu'ils transmettent aux enfants sur la ville et dans les pratiques de contrôle qu'ils mettent en œuvre. Et notamment l'idée que les filles seraient plus en danger que les garçons, je pense que c'est intéressant de se demander si réellement un garçon de 14 ans ou une fille de 14 ans n'ont pas la même capacité à se défendre du moment où on leur apprend, oui, à se défendre, en fait.
Et ça pose une vraie question, comment on fait pour changer les choses, parce que ça repose sur des peurs un peu irrationnelles quand même.
Alors pas uniquement, c'est là où c'est très compliqué, c'est pas uniquement des peurs irrationnelles, puisque les pratiques parentales s'appuient aussi sur des retours que font les enfants et que font les filles, parce que les filles sont exposées effectivement à des situations particulières, donc c'est pas uniquement de l'ordre du fantasme. Et par ailleurs, un autre élément très important, c'est que les mères s'appuient sur leur propre expérience de jeunes femmes puis de femmes dans la ville pour transmettre un discours spécifique à leur fille. Pour revenir à la question que vous me posiez sur les réseaux sociaux,
L'ampleur du réseau de socialisation, en fait.
C'est particulièrement vrai à Paris. Donc là, c'est une des grandes différences entre les deux terrains qui m'ont intéressé dans ce travail. À Paris, la compétition scolaire, comme je le disais, est particulièrement forte. Alors, non pas qu'il n'y ait pas de compétition à Milan, mais elle est beaucoup plus forte à Paris qu'à Milan. Avec un système scolaire très hiérarchisé, avec beaucoup de parents qui, dès un âge très jeune, font le choix de scolariser leur enfant dans un établissement privé ou d'essayer de faire en sorte qu'il aille dans un établissement public qui ne soit pas celui de son quartier de résidence. Et ça a des effets importants sur la différenciation du rapport au quartier, c'est-à-dire que les enfants qui vont rester pendant toute leur enfance et adolescence dans les établissements de quartier, qui sont la plupart du temps des enfants de milieu populaire, vont du coup développer des sociabilités de quartier très intenses, avec l'essentiel de leurs amis dans leur quartier, ce qui va avoir des effets sur les usages qu'ils font des espaces publics, et puis, par miroir, sur les usages qu'ils font de l'espace urbain de manière plus générale, au-delà du quartier. Et de l'autre côté, les enfants qui vont être scolarisés parfois très tôt en dehors du quartier de résidence, parfois dès l'école maternelle, vont eux développer assez peu de sociabilité de quartier, puisqu'ils ne sont pas scolarisés dans leur quartier, et au contraire ils vont développer des réseaux de sociabilité plus diffus dans la ville, dans le même temps qu'ils vont aussi construire des compétences de mobilité plus tôt, puisqu'ils sont plutôt amenés à aller sans leurs parents à l'école, en sachant que Paris n'est pas une ville dans laquelle il est très facile de se déplacer en voiture, donc en fait ils vont très souvent en transport en commun à l'école.
Votre livre montre aussi que du côté italien, les grands-parents sont davantage sollicités qu'en France. Il y a aussi une notion qui mérite peut-être qu'on en dise deux mots, c'est l'importance de l'Église ou de la religion aussi en Italie, qui semble-t-il joue un rôle. Comment se fait-il?
Alors ça, c'est deux caractéristiques effectivement du quartier de Milan dans lequel j'ai travaillé. Alors la première, pour les grands-parents, en fait, au-delà des grands-parents, c'est que il est beaucoup plus fréquent à Milan qu'à Paris que les parents habitent à proximité d'autres membres de leur famille. Donc ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des cousins, des oncles et tantes, mais effectivement, la plupart du temps, c'est les parents, donc les grands-parents ou les beaux-parents. Pour le dire en d'autres termes, il y a une organisation résidentielle familiale qui en fait est liée à une question d'échange de services. Donc par exemple, on va s'occuper des grands-parents de différentes manières, et puis en échange, ils vont s'occuper des petits-enfants. Et ça a comme effet de beaucoup ancrer les gens dans leur quartier, puisqu'il est très coûteux de déménager, vu qu'on est dans un système d'entraide, en fait, un système d'échange local familial, qui va favoriser le fait de rester dans le même quartier. Ça n'est pas évidemment que ça n'existe pas à Paris, mais c'est bien plus rare. Et ça a des effets donc sur les trajectoires résidentielles, en fait, puisque ça va ancrer les gens dans leur quartier de résidence. Et pour ce qui concerne l'Église catholique, ça existait à une époque à Paris. Je ne sais pas dans quelle mesure ça existe à Genève ou dans d'autres villes en Suisse. Mais les paroisses, en fait, jouent un rôle important dans les sociabilités des enfants, avec une institution qui s'appelle l'oratorio en Italie, donc en français on traduit par le patronage paroissial, qui est en fait un accueil d'enfants pour des activités ludiques, après l'école ou le soir, ou enfin le week-end ou même pendant les vacances. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'à Milan, en tout cas dans le terrain que j'ai d'enquête qui était le mien, mais aussi dans d'autres parties de la ville, c'est des institutions qui sont encore très vivantes, qui accueillent tous les jours beaucoup d'enfants, et pas forcément des enfants de confession catholique. Ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est qu'en fait, si on compare à Paris et à la France, elles jouent d'une certaine manière un rôle de service parapublic, de garde d'enfants et d'animation, qui n'existe pas en France, puisqu'il est bien davantage assuré par des services publics.
Je sors un peu de votre livre, mais j'avais lu il y a quelques années un truc qui m'avait beaucoup étonné, c'est que les parents japonais, par exemple, pucent leurs enfants pour pouvoir les surveiller sur le trajet de l'école. Et je me demandais dans quelle mesure aujourd'hui le téléphone portable, qui est un GPS finalement, n'avait pas aussi un rôle, ou peut-être déjà joue-t-il un rôle, dans cette appropriation de l'espace public, ou de la possibilité d'y être peut-être un peu plus libre, paradoxalement, en étant davantage surveillé.
Alors, j'ai pas développé tellement dans le livre, mais j'ai écrit un petit article sur cette question. Quand j'ai fait l'enquête, les smartphones étaient vraiment encore à leur début. Donc c'est des choses qui ont dû pas mal évoluer. Et puis je crois que l'âge d'acquisition du premier téléphone a encore baissé. Hein. Là maintenant, on est plutôt autour de la fin de scolarité primaire, enfin plutôt 9-10 ans, je pense. Mais oui, c'est tout à fait intéressant. Alors, je pourrais pas trop vous parler du Japon, mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que là aussi, on voit des différences sociales importantes, avec des parents qui vont avoir des perceptions très différentes de l'intérêt d'équiper ou pas son enfant d'un téléphone portable, et des discours très différenciés, donc avec des parents aussi qui vont expliquer pourquoi le fait de doter son enfant d'un portable va plutôt, au contraire, les inquiéter davantage. Parce que le téléphone peut être volé, en fait, ça peut être aussi l'occasion d'une agression. Parce que le téléphone peut tout simplement ne plus avoir de batterie, être éteint. L'enfant peut l'éteindre d'ailleurs lui-même. Hein. D'ailleurs, il y a des travaux de recherche sur ça, notamment de géographes, qui sont vraiment intéressants, qui montrent que c'est un peu une illusion de croire que le téléphone va permettre de contrôler, en fait, puisqu'on devient dépendant de l'outil. Et puis, d'un autre côté, des parents qui, eux, trouvent vraiment que c'est un outil formidable, que très rassurant. Et qui équipent leur enfant très tôt d'un téléphone pour cette raison-là.
Alors, sans vous prononcer sur le Japon, l'idée d'une géolocalisation de l'enfant qui ne soit pas dépendant du téléphone, mais aujourd'hui on géolocalise tout, sa voiture, sa trottinette, son vélo, peut-être demain son fils ou sa fille.
Ah oui, ben je... Vous aurez compris, je pense, en lisant mon livre, que c'est pas trop ma tasse de thé. Mais oui, c'est un peu impossible, peut-être même proche. Hein. Je saurais pas tellement quoi vous dire, à part qu'effectivement, on peut imaginer que ça arrive assez vite. Mais encore une fois, donc moi, en tant que sociologue, je m'intéresse aux différences sociales. Je pense que c'est des dispositifs qui seront accueillis de manière très différente selon les groupes sociaux.
Le Covid, ça a modifié encore ces comportements dont vous parlez dans votre livre. Ça les a renforcés pour certains ou amenuisés pour d'autres?
Alors ça, je pourrais pas vous répondre dans le sens où j'ai pas fait de nouvelle enquête depuis le Covid, mais ce que j'ai vraiment trouvé intéressant avec ce qui s'est passé, avec les périodes de confinement notamment, c'est qu'elles ont vraiment mis en lumière une question qui pour moi est fondamentale, qui est la question du logement. C'est-à-dire que on peut pas bien comprendre les usages que les enfants font des espaces publics, mais en fait c'est valable de manière plus générale, au-delà du cas des enfants, si on ne prend pas en considération les conditions de logement qui sont les leurs. Et donc on a vu avec le confinement que ça n'était évidemment pas du tout la même chose d'être confiné pendant 2 mois dans une maison avec jardin ou dans un petit appartement où on est 7 ou 8. Alors je crois que les confinements n'ont pas été aussi stricts en Suisse que
non, pas tout à fait, pas tout à fait aussi strict.
Par exemple en Espagne, les enfants n'ont carrément pas eu le droit de sortir de chez eux pendant 2 mois. Je vous réponds un peu par une pirouette, mais ce que je trouve intéressant avec ce qui s'est passé, c'est que ça maintenant ne permet plus de faire semblant qu'on ne sait pas que les enfants, mais de manière plus générale tout le monde, ne sont pas logés à la même enseigne dans leur rapport aux espaces publics, puisqu'en fait, ces espaces publics ne constituent pas dans la même mesure une ressource selon les conditions de logement dont on dispose.
Pour terminer, j'ai envie de vous demander, là je sors encore une fois un peu de votre livre, si d'après vous il est possible de rendre l'accès à l'espace public plus simple, plus libre pour les enfants. Parce qu'on a, enfin, en vous lisant, on a quand même l'impression qu'ils sont, constamment sous surveillance.
Bah, je pense que là on est vraiment, c'est une question d'ordre politique, hein, mais je pense qu'il y a des choses à faire, évidemment. Et d'ailleurs, le festival Explore ou ce type d'initiative peut peut-être y contribuer en mettant en avant certaines questions. Moi, à Lille, je travaille avec la mairie de Lille, qui, comme d'autres villes en France, et pas qu'en France d'ailleurs, souhaite devenir une ville davantage à hauteur d'enfants. C'est une expression qui est un peu à la mode. Je pense qu'il y a plein de leviers pour y arriver. Alors, le premier d'entre eux, c'est évidemment de revoir la place de la voiture dans les villes. C'est des choses qui sont déjà en cours dans un certain nombre de villes, par exemple Paris, au premier lieu. Mais évidemment, ça n'est pas sans susciter des tensions, des conflits, puisque si on redonne davantage de place aux enfants, on va devoir changer des choses et ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais la voiture, évidemment, c'est un levier d'action important. Et puis, je pense que là l'émission Brouhaha à laquelle je participais juste après en est un exemple. Il faut aussi donner la parole aux enfants ou redonner la parole aux enfants, leur donner les moyens de parler de leur expérience, de parler de leurs besoins, de leurs envies et les écouter. Et une ville à hauteur d'enfants, c'est une ville dans laquelle on prend au sérieux le fait que les enfants sont aussi des citoyens. Alors c'est peut-être pas des citoyens tout à fait comme les autres, mais c'est des utilisateurs de la ville et c'est des gens qui ont des choses à dire et dont la parole et les envies méritent d'être écoutées. Mais c'est une démarche, je pense, qui demande du temps et beaucoup de volonté politique.
Dans le cadre de Genève 2050, il y a une expérience qui a été faite avec des classes à qui on a demandé d'imaginer la ville en 2050. La première chose qu'ils font, c'est d'enlever les voitures, presque systématiquement, et la deuxième chose, c'est d'ajouter de la verdure. Donc eux aussi ont une perception très, très claire de l'espace public.
Et alors, c'est pas très joyeux, mais ça me fait penser à quelque chose que j'ai appris récemment, c'est qu'à Lille, il y a une école dans laquelle les enfants sont invités à faire pousser des plantes, donc il me semble que c'était des fraises en l'occurrence, mais ils peuvent pas les manger parce que les sols sont trop pollués. Donc c'est symptomatique quand même d'un certain nombre de défis qui nous attendent, c'est-à-dire que dans le cadre d'une super initiative où on va faire pousser des légumes ou des fruits aux enfants, en fait, et donc je crois que c'est plus ou moins contourné d'ailleurs par les enseignants, puisque c'est impossible de faire pousser une plante à un enfant et de ne pas lui faire au moins goûter un petit bout, quoi. Mais ça nous montre qu'il y a un lien entre différents enjeux, donc l'enjeu environnemental que vous évoquez, et puis la question de la place des enfants dans la ville, mais en fait plus généralement peut-être d'un retour à des villes qui laissent plus de place aux piétons. Je pense qu'il y a différentes choses qui s'entremêlent.
Merci beaucoup Clément Rivière. Je rappelle le titre de votre livre, Leurs enfants dans la ville, c'est paru aux éditions Presse universitaire de Lyon. C'est passionnant, honnêtement, j'ai pris un plaisir fou à vous lire. Merci infiniment.
Merci à vous.